Direction d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et on démarre avec cette campagne de dénigrement qui a commencé il y a quelques mois déjà contre les ONG qui sauvent les migrants en mer, les organisations humanitaires piégées dans un véritable tourbillon politico-médiatique. On les accuse de collaborer avec les trafiquants d'êtres humains en Libye. Des doutes qui ont été formulés par Frontex, puis par le procureur de Catane, Carmelo Zuccaro, et enfin le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Alors Mathilde Auvillain, vous avez été notre correspondante, vous êtes désormais responsable de la communication de l'association européenne SOS Méditerranée. Comment les ONG réagissent-elles à ces accusations ?
Vous savez, quand vous revenez d'une mission en mer, que vous avez sauvé des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, que vous avez vu dans quelles conditions ces personnes ont fait cette traversée, quand ces personnes vous ont raconté ce qu'elles ont vécu en Libye et avant, pendant la traversée du désert, vous avez du mal à comprendre, j'avoue, à l'arrivée au port en Italie, le pourquoi de ce tourbillon d'accusations maintenant, après un an d'opération, contre des ONG, contre des humanitaires qui sauvent des vies en Méditerranée. Ces accusations, ces allégations et ces fausses informations, parfois, sont évidemment sans fondement. Les humanitaires ont pour seule et unique mission de sauver des vies. Ils ont sacrifié leur vie personnelle et professionnelle pour intervenir là où il y a urgence, là où l'Europe et les gouvernements sont absents. Et jamais cette société civile européenne, cette société civile solidaire et humaine, n'a eu et n'aura de quelconque contact avec les trafiquants d'êtres humains en Libye, trafiquants qui privent les personnes de leur dignité, qui violent leurs droits fondamentaux et qui les poussent enfin à la mort à bord de canots pneumatiques en pleine Méditerranée.
Alors ces ONG, que demandent-elles aujourd'hui aux institutions européennes ?
Eh bien, le 9 mai, SOS Méditerranée a publié une lettre ouverte à l'Europe pour demander d'abord d'arrêter la criminalisation des ONG. L'action humanitaire n'est pas la cause de la crise en Méditerranée, mais bien une réponse à cette crise. Les organisations humanitaires présentes en mer permettent d'éviter des dizaines de milliers de morts, de limiter le désastre en cours, mais elles demandent depuis des mois une augmentation drastique et surtout urgente des moyens de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. Elles demandent aussi et surtout une prise de conscience et une réponse commune, une réponse solidaire et humaine des dirigeants européens à cette tragédie qui dure depuis trop longtemps.
Mathilde Auvillain de SOS Méditerranée. Des migrants qui font naufrage en mer, victimes des passeurs libyens, des migrants victimes aussi du gouvernement hongrois qui les accuse de tous les maux et refuse de les laisser passer, grâce notamment à la clôture équipée de caméras et de capteurs de mouvement. Viktor Orban va plus loin avec la création d'une nouvelle force de 3000 hommes, des chasseurs de frontières. Depuis septembre, la police hongroise forme ses nouvelles recrues. Les premiers chasseurs diplômés ont commencé à patrouiller à la frontière. Florence Labruyère s'est rendue à Pécs, dans le sud du pays, pour assister à l'une de ses formations accélérées.
Dans un gymnase, une douzaine de policiers stagiaires s'entraînent sur un grand tatami. Ils s'exercent à immobiliser une personne au sol.
Là, l'exercice que vous venez de voir, c'est pour leur apprendre à passer les menottes à une personne et aussi les techniques à employer si l'individu résiste.
Nous sommes au centre de formation de la police de Pécs, au sud de la Hongrie. On y forme des Hotar Vadas, littéralement des chasseurs de frontières. Zoltan, 32 ans, est inscrit à cette formation qui dure 6 mois.
Je suis cette formation pour devenir un chasseur de frontières. Concrètement, on va patrouiller dans le sud de la Hongrie pour assurer la sécurité du pays en cas de vague migratoire. Pour moi, c'est important de défendre ma patrie.
Avant, Zoltan était dans l'armée hongroise.
J'ai entendu parler de cette formation à la télévision et sur Internet. J'étais dans l'armée, mais j'avais un contrat à durée déterminée. Entrer dans la police me donne une sécurité d'emploi que je n'avais pas avant.
Ces chasseurs de frontières feront partie de la police anti-émeute. Ils vont en quelque sorte remplacer les anciens gardes-frontières. Le colonel Joja Heresnie, responsable de la formation à la police de Pécs.
Depuis les accords de Schengen, les gardes-frontières n'existent plus. Ils ont été intégrés dans la police. Cette formation vise donc à former des policiers qui auront la tâche d'assumer la sécurité des frontières. Mais pas uniquement, ils seront aussi chargés du maintien de l'ordre, de la prévention et de la sécurité de la population générale.
Sept heures de cours par jour, cinq jours par semaine. Outre les entraînements, les étudiants suivent aussi des cours de droit pénal et de langue vivante. Alice Kovac a 27 ans. Mince et blonde, les cheveux attachés en queue de cheval, elle avait toujours rêvé d'entrer dans la police.
Après mon bac, j'ai essayé d'entrer à l'école de police, mais il y avait 12 fois plus de candidats que de places. Je n'ai pas été prise, mais là, j'ai une nouvelle possibilité.
Alice est partie 4 ans en Angleterre. Elle a fait des ménages, travaillé dans les pubs. Et quand elle a su que la police recrutait des chasseurs de frontières, elle est tout de suite rentrée en Hongrie.
Bien sûr, je vais commencer comme chasseur de frontières. Je suis obligée, j'ai signé un contrat avec l'État. Mais dès que je le pourrai, je poursuivrai ma formation pour devenir inspecteur, faire de l'enquête. Voilà, on verra.
Vous voulez faire partie de la police criminelle, celle qu'on voit dans les séries télé ?
Oui, c'est ça.
Autre parcours, mais même ambition pour Gergely Tóth, 37 ans. Pour lui, cette formation est un moyen de changer de vie.
Être policier, c'est mon rêve depuis que je suis enfant, mais j'ai fondé une famille très tôt, alors c'était pas possible. Normalement, l'école de police, c'est 2 ans d'études. Cette formation, c'est seulement 6 mois. Pour moi, c'est la façon la plus rapide d'apprendre ce métier.
Quant à Petra Reisinger, elle est ravie d'intégrer les forces de l'ordre. Cette petite brune de 50 kilos est championne de boxe amateur et elle est prête à abandonner la compétition.
On aura des missions de 8 jours d'affilée à la frontière. Je ne pourrai plus m'entraîner régulièrement, ni participer à des championnats, c'est sûr.
Devenez chasseur de frontières pour servir votre pays, disent les dépliants publicitaires de la police. Choisi par les politiques, l'expression chasseur de frontières attire aussi des candidats au profil bagarreur et agressif. Mais un tiers seulement est admis dans la formation. Le colonel Joja Heresnier.
La sélection est très stricte. Après un examen médical, il faut passer des tests difficiles d'aptitude psychologique et physique. Par ce dispositif, on peut détecter tout de suite une personne agressive. Vous savez, ces futurs policiers seront armés. Et la patrouille est un service où il faut de la maturité, de la patience, car c'est monotone. Et puis, il faut être capable de résoudre un conflit. Je comprends que les gens cherchent un emploi stable, mais nous, on ne veut pas embaucher à tout prix.
Il suffit d'avoir un tatouage un peu trop visible pour être éliminé. La police hongroise met donc un point d'honneur à recruter des éléments fiables. 3000 chasseurs de frontières devraient être embauchés, mais pour l'instant, 1 000 seulement a intégré la formation.
Mioveni, en Roumanie, une ville qui doit tout au constructeur Renault. En 1999, le Français a racheté l'usine d'État Dacia pour construire une gamme de véhicules low cost dont le succès a été immédiat jusqu'en Europe de l'Ouest. Un succès qui a permis à la ville d'échapper aussi au sort des autres cités tombées en ruine après l'effondrement du communisme. Mioveni, ville-usine, c'est désormais une expo photo que l'on peut découvrir à Paris. Les photos sont d'Anne Leroy, les textes de Julia Burke qui répond en premier à Laurent Berthaud.
Moi qui connaissais très bien la Roumanie, quand je suis arrivée à Mioveni, j'ai été vraiment surprise de l'état de la ville, enfin de la manière dont en fait cette ville, elle respirait le travail, elle respirait la prospérité. C'était une ville très propre, les routes étaient en très bon état, il y avait des infrastructures, il y avait de l'argent qui était mis aussi dans les politiques culturelles, dans les politiques sociales, et c'était complètement à l'opposé de certaines zones complètement sinistrées de la Roumanie. Et c'est là où cette ville, en ça, elle, en même temps, elle raconte la Roumanie, mais elle raconte aussi une autre Roumanie. Elle raconte une Roumanie un peu prospère, une Roumanie développée, à l'opposé de l'image qu'on a de cet ancien pays de l'Union soviétique, un peu en ruine, entre guillemets.
Comment on vit dans une ville-usine, hein, c'est le nom de votre exposition, au début du XXIe siècle ?
On sent que toute la ville, elle est façonnée par voilà les 3-8, par les bus qui font des va-et-vient dans la ville, comme on a l'image aussi voilà d'une ville-usine qui tourne à plein rendement au 3-8.
avec des couples, vous parlez notamment d'un couple là dans cette exposition, qui se croisent en fait hein, au gré des shifts, au gré des équipes.
Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que souvent, on va avoir une des deux personnes du couple qui va travailler à l'usine et l'autre pas, et puis du coup, il va falloir s'organiser pour faire garder les enfants, pour qu'il y en ait un qui travaille de jour et l'autre travaille de nuit, et puis inversement. Et c'est vrai que ça, toutes les générations nous l'ont raconté, ils ont élevé leurs enfants en 8 inversés, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que ça donne une ville assez... au niveau du quotidien qui est vraiment rythmé par ces toits 8 et par l'usine qui est omniprésente en fait.
Qu'est-ce que ça a changé justement l'arrivée de Renault, donc le rachat de Dacia par Renault à Mioven ?
D'une certaine manière, ça a sauvé la ville, ça a sauvé ses habitants, mais de manière assez paradoxale, ça a aussi enfermé la ville dans une mono-industrie qui fait qu'aujourd'hui, Mioven est complètement dépendant de Renault. Et du coup, ça crée aussi toute l'industrie et tout, même les universités autour, tout est dédié en fait un peu vraiment à l'industrie automobile. Et tous les sous-traitants, quand Renault est venu en Roumanie, ils ont suivi Renault et sont venus aussi en Roumanie. Donc ça crée cette espèce de dépendance en fait et de mono-industrie à l'égard de Renault qui cause aussi certains problèmes parce qu'il n'y a pas de concurrence non plus. Donc du coup, tous les ouvriers, ce qu'ils espèrent, tous les gens, ils espèrent juste un travail à l'usine et il n'y a pas d'autre perspective en fait que celle-ci.
Et après un certain âge d'or, on sent déjà qu'il y a des inquiétudes de la part notamment des plus jeunes qui n'auront peut-être pas le contrat à durée indéterminée qu'ont pu avoir leurs parents.
C'est vrai que particulièrement chez les jeunes, donc la précarité se développe. Et pour mettre un maximum de chances de leur côté, c'est vrai que les jeunes ont tendance à étudier à l'université et à aller de plus en plus jusqu'à la licence, jusqu'au master, en espérant derrière pouvoir trouver un emploi d'ingénieur à l'usine. Mais clairement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc la situation, elle est quand même compliquée pour les jeunes là-bas.
Plus les rumeurs de délocalisation de la production.
Les usines vont peut-être, à un moment donné, être délocalisées un peu plus loin, un endroit où la main-d'œuvre est moins chère, où il n'y a peut-être pas de tradition syndicale comme il y a en France et en Roumanie aussi, et où la main-d'œuvre est, entre guillemets, plus docile. Et voilà, et c'est un cycle qui se répète inlassablement, où produire les voitures coûterait moins cher, où la main-d'œuvre, le coût du travail aussi serait moins cher. En fait, c'est comme si en Roumanie, aujourd'hui, il se passait ce qui s'est passé dans l'industrie automobile en France il y a 10 ou 20 ans.
Anne Leroy et Julia Burke pour Mioven Ville-Usine, c'est jusqu'au 19 mai au centre de la Grange aux Belles à Paris.
Tony Blair has a fake English accent. Paul McCartney has a fake English accent.
Dit-on de la même façon « cup of tea » partout au Royaume-Uni ? Eh bien, pas vraiment. Les accents sont non seulement très prononcés dans le pays, mais sont aussi des marqueurs sociaux. Une diversité que les médias reflètent de plus en plus, Marie Billon.
Eagle, piggle and ninky nonks and all that. I'm like, what's all this? But, when it's on all the time, I don't see any kind of normal telly type of thing. So it was nice when it came, it was a nice surprise.
Si vous n'avez pas compris ce que dit ici Paddy McGuinness, un présentateur de jeux télévisés sur les chaînes privées ITV et Channel 4, vous n'êtes peut-être pas les seuls. Il a un très fort accent du nord de l'Angleterre et le service public sait aussi laisser l'antenne à des voix très accentuées.
I've come to the coast of South Wales to try and see some of the most intimate and poignant remains in the whole of Britain.
Neil Oliver est écossais. Il présente principalement des documentaires sur l'histoire des îles britanniques, mais n'allez pas croire que les journaux télévisés sont quant à eux dénués de tout accent, même s'ils sont peut-être moins prononcés. Laura Kunzberg a grandi à Glasgow. Elle est l'une des spécialistes de la politique pour la BBC.
Today there was Liam and Vicky. He's not using it all the time. He's sort of got rid of the idea of going through all of Prime Minister's questions with source questions from the public. But clearly,
mais c'est sa collègue en charge de l'économie dans la matinale qui a rencontré le plus de problèmes avec son accent de Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre.
I'm Steph McGovern and I'm a presenter on BBC One's Breakfast News. My job is to deliver the business news every morning to the nation.
Steph McGovern dit régulièrement recevoir des invectives et des insultes sur les réseaux sociaux à cause de sa prononciation. Retourne dans ta cité, écrit l'un d'entre eux. Même à la BBC, son accent aurait eu du mal à passer. Un manager aurait même osé lui lancer lors de son entretien d'embauche. Je n'avais pas réalisé que les gens comme vous pouvaient être intelligents. Car les accents ne sont pas qu'affaires de tonalité ou de musicalité. Ils sont aussi une carte d'identité remplie d'informations objectives, comme la là où on a grandi, mais aussi subjective. Le ton chantant du Nord étant synonyme de pauvreté et de manque d'éducation. Pendant longtemps, les médias ne donnaient l'antenne qu'aux journalistes parlant le Queen's English, l'anglais très officiel, très standard de la reine, voire le plus snob. Sauf que depuis quelques années, c'est l'heure du rétropédalage. L'ancien présentateur du fameux show Today sur BBC Radio 4, Edward Stoughton, prétend même avoir été viré à cause de cet accent trop chic.
Welcome to Sunday. We have a big report today into the evidence that's persuaded some campaigners and lawyers that the Jehovah's Witnesses in this country should be investigated by the independent inquiry into child sexual abuse.
Mais le comble de l'accent haute société n'est pas tenu par un présentateur, c'est celui d'un député conservateur souvent invité sur les plateaux télé, Jason Rees-Mogg, et son accent poche, sochique ou prétentieux, au choix.
No, because I've listened carefully to what Mr. Twyman has said, and what he said is extremely sensible and right.
Et voilà l'accent très nez pincé du député Jason Rees-Mogg.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors pour ce vendredi, nous plongeons dans la poésie rêveuse.
C'est la rencontre improbable entre un auteur-compositeur anglais et une poétesse américaine de 90 ans qui donne aujourd'hui naissance à l'un des plus beaux disques du printemps, le troisième album de Diagrams. L'auteur-compositeur, c'est Sam Genders, quarantenaire, basé à Sheffield, à la tête d'une discographie épatante avec les groupes Tongue, Throes ou encore Diagrams. L'histoire commence quand une amie lui offre un jour un recueil de poèmes d'une certaine Dorothy Trogdon, installée sur les îles Orcas, situées au nord-ouest des États-Unis entre Seattle et Vancouver. Et l'envie vient bientôt à Sam Genders d'écrire des chansons avec cette Dorothy Trogdon, qui accepte de travailler à distance, par email, sur des textes qui vont bientôt composer un album. On y entend les sons captés sur l'île, le vent et les oiseaux, autant d'éléments qui soulignent le caractère rêveur d'un disque inspiré par la nature, conçu comme une échappée belle, portée par l'envie de fuir le tumulte moderne.
Morning and the sun come to your white walls and bring the day. Creeping yellow and blue, breathing the spaces in between. Shine on your coffee cup, on your jug of cream. Everything's brighter, newer, closer. It's only light. Sunlight in your hair, particles roam and signify. Yet my willing eyes will drink this in until I die. There's a truth behind it.
On se quitte en douceur avec It's Only Light de Sam Genders. Les textes sont de la poétesse Dorothy Trogdon. Toute cette semaine, il y avait à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr et aussi sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.
No separation.